Donc bonsoir tout le monde. Vous êtes plus habitués que moi au fonctionnement de l'université populaire parce que je suis tout nouveau comme enseignant ici. Et donc je vous propose de fonctionner de la manière suivante, mais je suppose que comme je vous le disais, je ne suis pas habitué. Je vais parler, disons, peut-être pendant une heure à peu près, si ça vous convient. Et puis après, on gardera au minimum trois quarts d'heure pour débattre, pour avoir vos réactions par rapport aux premières choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est un cadre proposé. Si jamais j'avais envie d'intervenir pendant que je parle au début, il ne faut évidemment pas vous en empêcher. Si je vais trop vite, il faut me le dire. Si je ne vais pas assez vite, il faut me le dire. N'hésitez pas à me dire et à préciser vos volontés. Alors, je vais quand même aussi me présenter un tout petit peu. Donc, je m'appelle Guillaume Caron. J'enseigne à la fois à l'université, au lycée, et j'ai fait un peu d'orientation à la philo en lycée professionnel aussi. J'enseigne depuis 8 ans. Et je vous avoue que pour moi, ce soir, je suis très heureux d'être là pour une raison simple, c'est que l'université populaire, dans son principe et dans son fonctionnement, représente vraiment l'idéal de l'enseignement pour moi, de l'enseignement et du débat, parce que ça, déjà vous êtes nombreux ce soir par rapport à n'importe quel colloque universitaire et par rapport à n'importe quel public de lycée, donc c'est assez incroyable de voir qu'il suffit de faire appel au goût des gens finalement pour avoir un tout petit peu de public en philosophie et que le cadre universitaire n'est peut-être pas, au sens académique, le cadre le plus approprié pour certaines raisons, mais s'il a ses vertus par certains côtés. Donc je suis très heureux de voir autant de personnes qui sont là uniquement que par leur goût, et ça me fait très plaisir. Après, une autre raison qui là est pour le coup, qui me convient aussi et qui est plus philosophique cette fois-ci, c'est que dans ma manière d'enseigner, j'ai envie de porter une certaine image aussi de la philosophie qui, à mes yeux, est une matière, contrairement à ce qu'on pense, très concrète, extrêmement concrète. Et je veux dire par là que, à partir du moment où on pose une question philosophique et où on fait référence à un auteur, comme Machiavel par exemple, qui, comme vous le savez, est loin de nous quand même, du point de vue de l'histoire, il faut absolument montrer pourquoi on est amené à poser une question. Et surtout, pourquoi elle est actuelle, cette question. Et le but de la problématisation, déjà, que je vais vous présenter ce soir par rapport à Machiavel, va d'abord consister à vous montrer l'actualité des questions posées par Machiavel et surtout sa pertinence pour penser le thème du pouvoir et de la contestation qui est au cœur, cette année, du programme de l'université populaire. Alors, voilà, ce but-là, maintenant, vous pourriez me dire que, finalement, essayer de montrer l'actualité de Machiavel et de parler du pouvoir et de la contestation aujourd'hui, trouver l'actualité à ça n'est pas très difficile en ce moment. On est à quelques semaines des élections présidentielles. Donc le pouvoir et la contestation, on en entend parler, et on est en pleine campagne électorale, et pour ce qui est des stratégies machiavéliennes qui partent un peu dans tous les sens, on est fermé aussi. Machiavélique plutôt, on verra, mais justement, on en reparlera. Et donc de ce point de vue-là, il y a peut-être que l'actualité apparaît comme quelque chose d'évident, l'actualité de Machiavel. Or, à mon avis, cette actualité de Machiavel, elle existe, elle est très présente, mais elle est plus compliquée, en fait, qu'on veut bien nous la montrer. Parce que Machiavel, c'est pas seulement celui qui a
essayé de montrer que le pouvoir était uniquement quelque chose qui pouvait s'assimiler à un réalisme politique, à un calcul pur et simple, sans aucune préoccupation éthique. À mon avis, il y a des préoccupations éthiques chez Machiavel. On verra lesquelles. Mais je reviens à cette question de l'actualité de Machiavel d'abord. Quand j'ai proposé d'intervenir sur la question du pouvoir et la contestation, j'ai d'abord réfléchi à ce qu'impliquait justement la question du pouvoir et de sa contestation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La contestation, ça peut aller de la simple du vote contestataire à la manifestation jusqu'à la révolution. Bref, c'est la contestation du pouvoir, c'est quelque chose qui remet en question le pouvoir dans ses fondements, en permanence. Et finalement, le pouvoir n'existe aussi que parce qu'il a pour but de justifier son existence en permanence. Quand on réfléchit sur le pouvoir et sur ce qui le conteste, c'est-à-dire sur la manière dont le pouvoir s'exerce par différents moyens, mais en même temps toutes les forces qui s'opposent au pouvoir, on va réfléchir à la fois sur la manière dont le pouvoir se met en place, mais à la fois aussi sur la manière dont un pouvoir peut être détruit. Et ce qui met en place et ce qui détruit, c'est ce qui fonde, par définition. Et donc, la question qui se pose vraiment pour moi, dans la question du pouvoir et de la contestation, c'est simplement celle de savoir ce qui fonde le pouvoir. Qu'est-ce qui fonde le pouvoir? Et Machiavel, par rapport à cela, a une actualité, mais une actualité qui est un peu contestée, pour une raison que je voudrais vous dire. En fait, en discutant avec mon épouse du programme que j'avais proposé là, sur Machiavel, elle m'a fait remarquer qu'il y avait un article dans un magazine du Monde, qui s'appelle le magazine du Monde, qui s'appelle Machiavel au pays des merveilles. Et justement, cet article qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Christian Salmon, qui est un chercheur actuel, qui suit en fait la campagne électorale pour le magazine du Monde, a écrit justement quelque chose sur l'actualité politique de Machiavel, et justement pour en montrer finalement à la fois l'actualité et l'absence d'actualité. Je voudrais vous lire cet article d'abord, un peu en guise d'introduction, pour essayer de vous montrer comment on voit Machiavel aujourd'hui, quelle actualité on lui prête, et pourquoi il peut y avoir en fait quand même quelque chose d'assez subversif là-dedans. Donc je vous lis cet article. Qu'en est-il en ce début du XXe siècle du prince auquel Machiavel prodiguait ses conseils de bonne gouvernance? Peut-on aujourd'hui encore compter d'éclairer le gouvernement sur les moyens de conquérir le pouvoir, de le conserver, et le cas échéant, sur les raisons de sa perte? Beaucoup le croient dans nos démocraties médiatiques qui ont transformé l'enseignement du maître florentin en un commerce lucratif plus proche du marketing que de la philosophie politique. Mais quel est ce pouvoir qu'il s'agirait de conquérir et de conserver? Sur quel sujet s'exerce-t-il? Quel est son champ d'action, sa sphère d'influence, ses marges de manœuvre? Quels sont ses rivaux à l'intérieur et à l'extérieur? À l'époque de Machiavel, ces questions se posaient de manière plus simple. Selon lui, les difficultés à gouverner se concentraient essentiellement dans les États nouvellement acquis. Selon Machiavel, le prince y a pour ennemi tous ceux dont il a blessé les intérêts. Il ne peut conserver l'amitié ni la fidélité de ceux qui lui ont facilité l'entrée par l'impuissance où il se trouve de les satisfaire autant qu'il se l'était promis. Les problèmes de gouvernance dans les démocraties modernes reproduisent parfois jusqu'à la caricature cette situation. Même si le pouvoir s'obtient par le suffrage universel et non par la force. Passé à un bref état de grâce, le nouveau prince élu se voit confronté non seulement à ses anciens rivaux, tous bien identifiés, mais à un ennemi insaisissable et rebelle, l'opinion. D'autres facteurs objectifs viennent lui compliquer la tâche. le cadre national de la gouvernance s'effiloche par les deux bouts, au bénéfice des pouvoirs régionaux d'une part et des instances supranationales de l'autre, qu'elles soient chargées de régulation économique, monétaire ou d'intervention militaire. Actualité de Machiavel aujourd'hui avec une présentation assez brève du problème posé par Machiavel. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la suite. La souveraineté de la nation est contestée de toutes parts par la puissance des lobbies en tout genre. À peine a-t-on acquis le pouvoir dans les urnes qu'on découvre qu'il a déserté les palais nationaux pour migrer en d'autres lieux, Bruxelles, Wall Street, Washington, quand il ne s'est pas purement et simplement volatilisé dans les nuées de la mondialisation. Depuis la crise de 2008, les marchés dictent au gouvernement les politiques de rigueur et les agences de notation sanctionnent les récalcitrants. De sorte que l'expression de la volonté collective par l'élection, censée servir de socle à la démocratie, finit par apparaître comme un subterfuge qui se résume à la possibilité offerte au plus grand nombre de se choisir un prince virtuel tous les 4 ou 5 ans. Un roi carnaval, entouré de collets montés, d'arlequins et de fées au masque de velours. S'il fallait encore une preuve de la fin du politique, elle résiderait dans la figure spectrale de ce prince sans royaume et sans gloire, condamné à mimer les gestes et les attributions d'une souveraineté perdue. Mais que signifie alors dans ces conditions conquérir le pouvoir ou le perdre? De quel pouvoir s'agit-il et de quelle perte sinon d'un pouvoir dépourvu de ses attributions et d'une perte qui ne se limite pas à une défaite électorale, mais d'une déperdition qui affecte le pouvoir lui-même, la politique elle-même? On peut toujours se consoler en qualifiant cette crise de nouvelle phase ou de mue post-politique, mais c'est encore trop dire, car ce qui survit à la politique n'a plus grand-chose en commun avec cette passion et cette quête que partageaient les hommes depuis l'invention de la démocratie. On l'a bien qualifié de médiatique, de participative ou de sociale pour tenter de lui redonner un peu de lustre, mais la politique, comme l'expérience de la démocratie et art du bon gouvernement, appartient au passé. À sa place, nous conservons quelques vestiges, et voici les exemples des vestiges, le vieux théâtre grec, les tableaux de David, l'œuvre de Machiavel. Parfois, il nous arrive d'en ressentir encore le souffle, comme en 2008, lors de la campagne présidentielle de Barack Obama aux États-Unis. La presse, alors, parle d'hommes providentiels, d'élections historiques, mais nous sommes vite obligés d'en convenir, ce n'était qu'une hallucination. Le retour du politique, tant de fois annoncé, ne s'est pas produit. L'analyse faite par Christian Salmon me semble absolument juste. À quel point de vue? D'abord, ce qu'il retranscrit de Machiavel, on aura l'occasion d'en reparler, sur le fait que Machiavel est celui qui cherche l'art de bien gouverner. Tout ce qu'il dit à ce propos est tout à fait juste. Mais ce qu'il dit sur la suite également, c'est-à-dire, finalement, pour Christian Salmon, Machiavel est quelqu'un qui peut nous aider à comprendre le monde politique aujourd'hui, qui nous permet d'analyser les stratégies de pouvoir, qui nous permet d'analyser les relations politiques entre les personnes, mais Machiavel est devenu inutile parce que la politique est devenue inutile, d'après Christian Salmon. Pourquoi? Parce que cette politique, qui avant avait un pouvoir décisionnaire absolument fondamental dans la constitution de la vie de la cité, aujourd'hui elle est soumise, d'après Christian Salmon, et finalement c'est assez facile de s'en rendre compte, elle est soumise en effet au lobby économique. Alors, si je partage l'analyse, en revanche, j'ai une grande divergence sur la conclusion à en tirer. Parce que justement, oui, c'est vrai, le politique disparaît aujourd'hui. Le politique, c'est-à-dire le fait que le vivre ensemble, la communauté, choisisse la société dans laquelle elle veut vivre et qu'elle ait un pouvoir décisionnaire pour cela. De ce point de vue-là, c'est vrai. Cela dit, renvoyer Machiavel justement au vestige et accepter donc cette disparition du politique, c'est justement, à mon avis, ne pas comprendre Machiavel. Parce que Machiavel a pour but, lui, de fonder la vertu politique. Et la vertu politique, quelle est sa conviction fondamentale? L'action. Ne jamais lâcher. Jamais. Autrement dit, s'il y a bien quelque chose de fondamental aujourd'hui pour nous dans Machiavel, c'est précisément que Machiavel peut nous aider à penser la réappropriation du politique. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer, c'est qu'il y a dans la manière dont Machiavel définit la politique, la manière dont il définit la vertu politique, un moyen de repenser aujourd'hui non seulement le sens et l'importance de, mais aussi l'importance de l'engagement politique citoyen. La vertu qui est un concept fondamental de Machiavel, la vertu politique, qu'il ne prête qu'au prince dans le livre du même nom, en fait, à mon avis, elle peut servir à penser justement ce que doit être une vertu politique citoyenne, de l'engagement. Et comment cette vertu peut se mettre, peut se réapproprier le pouvoir et reprendre le dessus. Donc, pour essayer de poser quelques lignes claires, justement, plus claires encore sur le, si possible, sur la perspective que je voudrais vous proposer ici, j'ai noté, donc je vais le lire. En quoi une réflexion sur le fondement et la fondation du pouvoir et la définition de la vertu politique selon Machiavel peut-elle faire ressurgir pour nous aujourd'hui le sens et l'importance de l'engagement politique pour un citoyen dans notre monde? Comment la vertu politique, selon Machiavel, peut nous aider à repenser l'importance de notre participation et la manière de participer pour chacun d'entre nous au monde politique. Et c'est à travers la problématique donc, du fondement que je voudrais aborder tout ça. Cette problématique du fondement, je vais la développer dans quelques instants, mais juste avant, je voudrais faire une petite remarque préliminaire sur la manière dont je vais utiliser cet ouvrage, Le Prince. C'est la proposition que je vous fais, c'est il faut que ce livre soit pour nous un prétexte à tous les sens du terme. C'est-à-dire un prétexte au sens où la lecture de Machiavel ne doit pas avoir d'autre but pour nous que d'essayer de penser le monde politique contemporain et donc essayer de voir dans quelle mesure les concepts apportés par Machiavel sont applicables aujourd'hui et comment ils peuvent nous aider à penser cela. Un prétexte donc à penser du concret. Mais un prétexte aussi au sens où c'est un texte qui viendra toujours avant. C'est-à-dire c'est un texte qui doit constituer pour nous le cadre de notre débat pour que on puisse avoir quelque chose d'un peu riche au niveau conceptuel et qu'on ne parte pas chacun d'entre nous en fonction de nos affects du moment sur telle ou telle opinion politique et qu'on puisse discuter à partir de ce texte-là vraiment. Ce qui suppose une chose qui est extrêmement importante et en particulier pour Le Prince de Machiavel. C'est une lecture extrêmement détaillée du livre. Pour une raison très simple, c'est que toute la philosophie politique de Machiavel est dans le moindre détail du livre. Pourquoi ? Parce que Machiavel peut dire une chose à un chapitre et exactement le contraire au chapitre suivant. Et ce n'est pas une contradiction qu'il faut condamner, c'est une contradiction qui porte un sens, vraiment. Et ça, on pourra percevoir tout l'intérêt de Machiavel et toute l'ambiguïté de sa philosophie si on a une lecture extrêmement détaillée. Je vous invite notamment à essayer de regarder, pour commencer une perspective de lecture, à chaque fois que Machiavel dit « Il est naturel que les hommes dans telle situation réagissent de telle ou telle manière ». Méfiez-vous, Vous pouvez être sûr que 4 chapitres plus loin, il vous dira qu'il est naturel que les hommes agissent exactement de la manière contraire qu'il avait dit précédemment. Et donc ça, il va falloir pourquoi, expliquer pourquoi il dit ça. Donc voilà, je vous invite, ça c'est mon côté un peu universitaire, à une lecture vraiment très détaillée du livre, parce que c'est à travers ce détail-là qu'on pourra vraiment saisir les ambiguïtés de cet auteur et son intérêt pour nous aussi. Alors, je reviens donc à cette question de ceux qui fondent le pouvoir et la problématique du fondé, pour Grandpin, si vous voulez. Pour essayer d'abord de la détailler un petit peu et pour vous faire comprendre déjà l'importance de Machiavel de ce point de vue-là. Et ça exige un petit passage biographique. Qui était Machiavel et pourquoi est-ce que j'ai choisi cet auteur pour essayer de penser la question du fondement? Machiavel, c'est un penseur du 15e siècle, un penseur italien. Alors, voici quelques données historiques. Il naît le 3 mai 1469 à Florence et meurt à Florence également le 21 juin 1527. On connaît en fait assez peu les 30 premières années de sa vie. Il commence une carrière politique aux alentours de 1498. Alors là, il faut que je précise un tout petit peu le contexte historique. En 1494, les Médicis sont chassés de Florence et c'est un prédicateur connu sous le nom de Frère Jérôme Savonarole qui prend le pouvoir. Il se met à la tête d'une république chrétienne et Machiavel n'est pas un grand ami de Frère Jérôme Savonarole. Il est un peu exilé du pouvoir à ce moment-là, mais il va pouvoir y revenir. Au bout de 4 ans, pour des circonstances que je parle, Savonarole est exécuté et Machiavel prend les fonctions de secrétaire au sein de la chancellerie à Florence. Il a une fonction précise, ce secrétaire. Il va être secrétaire pendant environ 15 ans. Faire de la diplomatie. Pourquoi est-ce que c'est fondamental ça? Parce qu'il faut vous représenter l'Italie à cette époque-là. L'Italie à cette époque n'a absolument rien à voir avec l'Italie que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un État sans aucune unité. C'est un ensemble de duchés, de royaumes, avec des influences diverses, certains influencés par le roi de France, d'autres influencés par le pape, d'autres avec des pouvoirs extrêmement restreints du point de vue géographique, mais très forts au point de vue quand même au point de vue local. Bref, c'est un État sans unité. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que par sa fonction de diplomate, Machiavel va avoir sans arrêt pour but d'essayer de constituer ou de favoriser cette unité italienne qui n'existe pas. Autrement dit, il est au cœur d'un État perpétuellement en crise. Machiavel est vraiment au milieu de tout le jeu politique qui consiste en alliance armée, en stratagème de prise de pouvoir, etc. Autrement dit, par sa fonction même, par sa fonction de secrétaire, il fait l'expérience, Machiavel, d'un État perpétuellement en crise. Il est au cœur de ce qui se passe du point de vue du fondement du pouvoir. Et alors du coup, en étant ainsi au cœur d'un État en crise perpétuelle, bref, d'un pouvoir qui est sans cesse contesté et qui tente de se réaffirmer sans cesse, Machiavel tire une leçon. S'il y avait vraiment une leçon unique à tirer de cette expérience-là, c'est celle-ci. Pour Machiavel, un État ne cherche
jamais à accomplir ou à réaliser le bonheur des citoyens, ou à essayer d'imposer la justice, une justice parfaite, au milieu des citoyens. Donc là déjà, il y a une opposition totale avec toute la philosophie politique antique, notamment Aristote, Platon et d'autres, pour qui la société avait pour but l'épanouissement de l'homme, le bonheur, la justice, si on prend Platon, l'harmonie, chacun bien à sa place dans la cité grecque. Machiavel, certainement pas. Un État qui cherche une seule chose, être stable. Autrement dit, un pouvoir cherche une seule chose, rester le pouvoir. Et donc ça, c'est le fruit de son expérience. Mais ça va être une leçon politique terrible et qui va absolument tout changer à la manière de concevoir la politique. Et du coup, ça nous permet de... préciser un peu cette problématique du fondement. Apparemment, la première chose qui vient, donc, c'est qu'on ne fonde pas une politique ou une vertu politique sur des valeurs imaginaires, des idéaux, mais uniquement de façon très pragmatique, apparemment. Alors, si on peut poser une nouvelle question, c'est, pour Machiavel, le problème politique du fondement serait le suivant. Comment prend-on le pouvoir et comment on le garde de manière à garantir la stabilité de l'État? Comment rester au pouvoir? Et c'est là que on va pouvoir à nouveau déployer un peu plus cette problématique du fondement. Fonder, en français, ça veut dire deux choses. La fondation et le fondement, ce sont deux choses distinctes. La fondation, c'est une question de fait. C'est-à-dire, ou bien quelque chose est fondé, stable, existe, c'est un fait, ou bien il n'existe pas. Le fondement, au contraire, c'est ce qui rend légitime quelque chose. Alors, la distinction est un peu facile, mais en fait, elle est extrêmement féconde pour comprendre Machiavel. D'abord, parce que si vous êtes attentif à, justement, à la lecture du Prince, vous allez voir que le vocabulaire, par exemple, architectural, est très présent dans le Prince. La question de la fondation, au sens de ce qui cimente, de ce qui institue de manière très concrète un pouvoir, est très présente. La question du fondement, alors là, c'est plus problématique. Est-ce qu'il y a vraiment une question éthique dans le Prince? C'est ce problème-là que je vais aborder maintenant. En vous proposant trois lectures possibles du Prince, dont une que je préférerais, évidemment, je vous dirai pourquoi. Comment est-ce qu'on lit généralement le Prince de Machiavel? Ben justement, en opposant... Bonsoir.
On s'est perdu.
Pas de problème. Généralement, notre manière de lire le Prince consiste à faire une chose. Opposer justement, dans sa philosophie politique, la fondation au fondement. Il faut chercher à fonder au sens de la fondation et ne pas s'occuper du fondement. C'est comme ça qu'on lit Machiavel d'habitude. Alors, je ne sais pas quelle a été votre première expérience de lecture de Machiavel, certains l'avaient peut-être déjà lu, d'autres le découvrent peut-être. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai lu, c'est un livre que j'ai eu envie d'avancer par la fenêtre. C'est violent, c'est dur, c'est cynique. En plus, ça part d'un contexte historique. Faut vraiment être spécialiste de l'histoire de l'Italie pour s'y retrouver, entre les noms Borgia, etc. En plus, si on est un tout petit peu intéressé par l'italien, c'est écrit dans un italien compréhensible parce que c'est un italien populaire, et justement, Machiavel renouvelle la langue, là, c'est au moment où il écrit ça, et ça c'est intéressant. Et puis surtout, c'est révoltant. C'est un livre révoltant. Et évidemment, la première fois que Machiavel a été lu, on considère ce livre comme un livre profondément immoral, un petit manuel de la tyrannie, comme quelque chose qui vraiment est d'une cruauté sans nom, et on ne voit pas vraiment quelle peut être la pertinence politique pour nous de ce livre, si ce n'est celui qui fondait la tyrannie. Certains d'entre vous ont lu un peu cette lecture. C'est la première question. Non, personne. Et après tout, moi c'est vraiment ça que j'ai lu la première fois aussi. Et puis c'est là qu'intervient un certain nombre de points de détail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vraiment Machiavel veut opposer absolument la fondation et le fondement? La question du fait et la question du droit. Est-ce que vraiment Le Prince est un petit manuel de tyrannie? Si on regarde, il y a quand même des choses qui ne collent pas. D'abord, si vous êtes un partisan de la tyrannie, si vous voulez soit aider Laurent de Médicis, parce que c'est à lui qui est avec le prince, à fonder la tyrannie, et ou si vous voulez vous-même être un tyran, est-ce que la première chose que vous allez faire, c'est écrire un livre où vous allez révéler exactement comment le pouvoir fonctionne? C'est-à-dire donner à toutes les personnes qui vont lire ce livre les moyens de contester le pouvoir. Démarche étrange, quand même. Et là-dessus, il y a une phrase de Rousseau qui est assez célèbre sur ce point. Machiavel, feignant de donner de grandes leçons au prince, en a en réalité donné de grandes au peuple. Et en effet, si vous voulez détruire un pouvoir, il n'y a rien de plus efficace que d'expliquer aux gens comment le pouvoir fonctionne. Un pouvoir est d'autant plus fort qu'on ignore les mécanismes de son fonctionnement. À partir du moment où vous allez écrire sur ce qui fonde le pouvoir, vous donnez certes aux personnes qui exercent le pouvoir le moyen peut-être de s'améliorer dans leur rôle, mais vous donnez aussi à ceux qui ont envie de le contester les moyens de le détruire. Donc déjà là, il y a une la démarche d'écriture, me semble-t-il, est au moins ambivalente. Et puis, il y a d'autres choses qui ne collent pas encore. Est-ce que c'est... Oui ?
Juste pour rebondir sur cette
affaire. Allez-y.
Quand il a écrit vraiment pour un cercle très large de lecteurs, ou est-ce qu'il a écrit pour un cercle
tout à fait. C'est une question un tout petit peu compliquée. Enfin, c'est un tout petit peu compliqué d'y répondre. Parce que Machiavel a, si on rentre vraiment dans ses intentions de l'écriture du prince, il est aussi ambivalent. Il est exclu du pouvoir de Florence depuis quelques temps et il cherche à se faire bien voir de Laurent de Médicis avec qui. Pour des raisons diverses, il est un peu en conflit politique. Et donc, il lui dédie ce livre. C'est d'abord à Laurent de Médicis, apparemment, que le livre est destiné, et d'ailleurs, il va y mettre l'obligatoire au début du livre. Mais il y a d'autres choses qui interviennent. Par exemple, il a eu le désir de diffuser le livre dans un comité restreint. Il y a d'autres choses. Au moment où il écrit le livre, Machiavel est. Il avait une vie politique, une vie diplomate, il avait une vie populaire, au sens inscrite dans le peuple, très forte aussi. C'est-à-dire qu'il raconte très souvent comment, quand il était en train d'écrire, il a discuté de son livre avec les personnes avec qui il jouait dans les cafés. Donc, au moment où. Enfin, dans les cafés, je ne sais pas si c'était le bon terme pour l'époque, mais. Bref, il adorait retrouver des amis agriculteurs, paysans à l'époque, ouvriers, enfin, c'est pas le sens non plus. Bref, les termes ne conviennent pas, parce que c'est pas la même époque. Mais il est inscrit vraiment dans la vie du peuple, et il a ces deux parts-là en lui. Inscrit dans la diplomatie et inscrit dans la vie du peuple. Et de ce point de vue-là, il révèle ce qu'il fait. Donc, il n'a pas de méfiance particulière. Il ne cherche pas du tout à protéger ce qu'il écrit de la diffusion. En tout cas, à ma connaissance, on n'a pas de preuve qu'il ait cherché à restreindre la diffusion de son propre livre. Alors, j'étais aux choses qui ne collent pas. Je vous disais, bon, déjà, il y a des marges d'écriture, mais ambivalente. C'est peut-être pas suffisant. Autre chose. Si vous lisez attentivement Le Prince, Machiavel dit au sujet un principe de gouvernement fondamental. Si vous voulez rester au pouvoir, il y a une chose qu'il ne faut absolument jamais faire, c'est accomplir des actes qui pourraient laisser penser au peuple qu'il est opprimé. Si un chef d'État doit se garder de toute doit se méfier absolument d'une chose, c'est que le peuple soit ou se sente opprimé. Déjà un peu, je vous donnerai plus tard dans le cours des références plus précises sur où tout ça apparaît. Mais c'est déjà un peu étrange aussi comme tyran, quelqu'un qui pose en principe la non-oppression du peuple. Autre chose, Machiavel a écrit un autre livre qui s'appelle Le discours sur la première unité de Sicile, où il se fait un très très grand admirateur de la République romaine. Et on trouve aussi dans Le Prince quelque chose d'assez intéressant. C'est au chapitre 5, je crois, mais je reviendrai sur tout ça. Machiavel dit que les États les plus forts, les plus difficiles à conquérir et ceux qui ont le plus de chances d'assurer leur unité sont les États où le peuple a l'habitude de vivre dans la liberté. Donc, si vous suivez, si vous voulez assurer le fondement d'un État, assurez la liberté au peuple et empêchez toute oppression. C'est-à-dire, on est quand même déjà un peu curieux, au moins curieux, pour un tyran. Donc, à mon sens, cette lecture-là n'est pas possible. Il y en a une deuxième lecture. Non pas la lecture immorale, comme on dit, celle du tyran, mais la lecture amorale. C'est-à-dire, non pas qui va contre la moralité par principe, mais qui ne se préoccupe pas de la moralité. Et la lecture réaliste. Cette lecture, elle est due essentiellement à... Comment on peut dire ? À un chapitre en particulier du Prince, qui est le chapitre 15, où Machiavel explique que... Si on veut vraiment fonder le pouvoir, alors il ne prend pas ces termes-là, et il ne faut pas se préoccuper du fondement, mais seulement de la fondation. C'est-à-dire, il ne faut pas se préoccuper de fonder le pouvoir sur un idéal, sur des valeurs morales, sur la bonté humaine, sur une volonté de justice, parce que quiconque fait cela, dit Machiavel, apprend plus à se perdre qu'à se conserver. Et ce chapitre-là est le chapitre typique à partir duquel on dit que pour Machiavel, à partir duquel on fait de Machiavel, le fondateur du réalisme politique. Quelle est cette lecture ? Alors, cette lecture-là, elle est beaucoup plus difficile à contredire, et là, à cette fois, il y a un vrai défi. C'est la lecture la plus courante de Machiavel. Et quand on cherche, par exemple, aujourd'hui des personnages qui incarnent ça, on le trouve facilement. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle La Conquête. La Conquête, c'est extrêmement bien trouvé comme titre de film, parce que, donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est l'histoire de l'ascension au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Pourquoi c'est très bien trouvé? Parce que, justement, conquérir le pouvoir, c'est toute la problématique machiavélienne. Qu'est-ce qu'on voit dans ce film?
Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas grand film qu'on voit.
Mais, qu'est-ce qu'on voit dans ce film? Finalement, un homme qui est prêt à tout pour le pouvoir, c'est-à-dire qui ne se préoccupe pas d'idéologie. Quand vous êtes, finalement, enfin, là je ne sais quels sont ses effets, quand vous êtes capable dans les discours de citer aussi bien Jaurès d'avoir des ministres soi-disant socialistes, etc. Bref, l'idéologie, c'est pas quelque chose qui préoccupe. Et le film le montre bien. Quand on veut le pouvoir, il ne faut pas se préoccuper d'idéologie, il faut aller chasser sur les terres de FN si c'est nécessaire. On s'en moque de l'éthique. Les valeurs n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est la conquête. Et c'est comme ça qu'on voit Machiavel aujourd'hui. C'est essentiellement comme quelqu'un qui est obnubilé par la prise du pouvoir et par tout ce qui est nécessaire de faire pour le conquérir. Pas de préoccupations idéologiques, éthiques, imaginaires, pas d'idéaux, rien. Le pouvoir, uniquement le pouvoir. Et ensuite, ça va être plus dur, assurer la pérennité du pouvoir. J'espère que ça sera plus dur. Donc, pourquoi ici le... Pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette lecture-là de Machiavel? Cette lecture, elle dit que il faut abolir en fait toutes les formes imaginaires, les formes idéaux, dans l'implication et l'engagement politique. Quand on veut le pouvoir et quand on veut le conserver. Or, la question de l'imaginaire, chez Machiavel, elle n'est peut-être pas immédiatement présente au sens qu'on entend d'habitude, à travers les valeurs politiques, je vais y revenir, mais l'imaginaire est absolument fondamental, et toute la question de l'apparence et de l'image est quelque chose d'absolument fondamental dans toute la théorie machiavélienne du pouvoir. Alors, l'imaginaire et les valeurs, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais je vais y revenir. Certes, dans le pouvoir, il y a des questions, dit Machiavel, de force, d'organisation, de stratégie d'alliance, de calcul, d'anticipation, d'adaptation, de législation, tout ça c'est très important. Mais Machiavel est aussi un homme qui pense que qui est très admiratif de tous les personnages mythiques qui ont fondé le pouvoir, mais qui sont des personnages qui sont des fondateurs. Mais un fondateur au sens mythique du terme. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Le mythe, c'est un discours qui est véhiculé à travers la rumeur, à travers l'opinion, à travers les on-dit, et qui constitue aussi l'identité d'une société et d'un pouvoir. Et Machiavel, il cite Moïse, il cite Romulus, il cite j'en oublie, on verra, mais il est admiratif des personnes qui ont su, à travers leurs idéaux et à travers les symboles qu'ils portaient, créer un discours politique qui fasse lien. Et donc, ici, à mon avis, la question du fondement, de l'imaginaire et des valeurs, elle est fondamentale chez Machiavel. Et on ne peut pas la dissocier de la question de la fondation. Alors, il faut quand même faire une distinction. Il est vrai de dire que Machiavel ne s'intéresse pas aux valeurs en elle-même, que si on veut absolument fonder un État sur la justice, si on suit uniquement un principe, on va plus se perdre que se conserver. Il faut, à mon avis, comprendre le sens de ce rejet de l'imaginaire et des valeurs sur Machiavel. Il a un sens précis. Si vous lisez Le Prince, vous allez vous apercevoir que quand on suit un principe en politique, un principe imaginaire, une valeur, et bien, on peut fonder aussi bien ce qui est conforme à ce principe que ce contraire, que son contraire. Je veux dire par là, je prends un exemple très simple. La liberté et l'égalité, la justice, sont des valeurs fondamentales de l'éthique politique. Soit. Maintenant, être porté uniquement par ces valeurs dans l'engagement politique et vouloir fonder un État en fonction de cela, c'est un leurre. Pourquoi ? Parce que vous pouvez défendre n'importe quel type d'acte à partir de ça. Vous connaissez, quel que soit le chef politique, que ce soit un grand dictateur ou un grand démocrate, vous connaissez déjà un chef politique pour la liberté, pour autre chose que pour... Tous se battent pour la liberté. Tous. La question des valeurs en elle-même ne fait rien. On peut bien porter dans le discours un idéal politique, on peut faire dire à cet idéal tout et son contraire. Donc, pour Machiavel, cet imaginaire abstrait, évidemment, est à condamner. En revanche, pour Machiavel, ce qu'il ne faut absolument jamais faire, c'est distinguer le fondement de la fondation. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre une valeur tout en étant immédiatement engagé dans l'institution concrète de cette valeur. Et si cette valeur ne fait pas lien entre des gens, il faut l'abandonner. Il faut que je développe ce point parce que il est à mon avis un peu compliqué à comprendre. Mais je vais peut-être partir d'un exemple. Ce sera plus simple. Vous avez entendu parler de l'accord politique qui a été signé entre le Parti Socialiste et Europe Écologie. Je voudrais revenir là sur l'attitude d'Eva Joly. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui se joue dans cet accord? Personne n'est dupe. Plusieurs choses. Évidemment, la question du nucléaire, d'accord, quel pourcentage on enlève, etc., etc. Mais bien d'autres choses. Des stratégies d'alliance aussi, là on est dans le pur matérialisme, on fait un accord, donc on se réserve telle place pour telle circonscription aux législatives, etc., etc. Bien sûr, il y a de la stratégie, bien sûr, il y a du matérialisme dans tout ça. Qu'a fait Eva Joly? Au moment où cet accord est signé, elle ne l'accepte pas. Elle le dit, cet accord ne la fait pas rêver. Pourquoi? Parce qu'Eva Joly a un principe, la sortie du nucléaire, c'est sa valeur. Et on ne cède pas sur ce principe-là. Et c'est pour ça qu'elle part. Parce que ce principe, c'est une ancienne juge d'instruction, les principes, ça a un sens. On ne cède pas sur les valeurs qu'on défend. Qu'est-ce qui se passe? Erreur politique fondamentale. Pourquoi? Parce que on peut voir quelque chose, on peut voir quelque chose de noble dans cet attachement à la sortie militaire et dans l'attachement à ces valeurs-là. Et ça, c'est en effet, enfin, comment le lui reprocher? Pourquoi est-ce que c'est une erreur politique très grave? Parce que elle y est seule. La poursuite de cette valeur l'empêche de continuer à faire lien. Or, le sens même de la politique, c'est de créer l'unité et de faire lien, de constituer un lien avec les autres. Eh bien, la leçon de Machiavel, à mon avis, dans son livre, elle est exactement là. À partir du moment où la défense d'une valeur importante vous conduit soit à devoir imposer cette valeur de manière purement dogmatique, soit à vous retirer du champ politique, oubliez votre noblesse et cédez à la nécessité de faire alliance. Ne jamais détacher les principes et les idéaux imaginaires de la nécessité de faire lien et de faire unité. À partir du moment où les fondements que vous poursuivez ne permettent plus une fondation concrète de l'unité, vous faites une erreur politique. Et c'est, je pense, ce point-là en particulier que Machiavel a extrêmement bien compris. Le fondement, tous les aspects idéaux, tous les aspects imaginaires, sont une des forces du politique parmi d'autres. Quand cette force-là finit par céder face à toutes les autres, c'est qu'il y a un problème. Et dans notre imaginaire, qui qu'on soit, on se trompe. Donc c'est cette exigence-là que Machiavel invite à suivre. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure dans ne jamais dissocier la poursuite d'une valeur de sa capacité à faire lien au sein d'une institution politique, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la valeur. J'ai presque terminé et pour aujourd'hui, et je vous laisserai la parole, je voudrais juste donner quelques mots un peu plus précis là-dessus. Pour le dire encore autrement, la beauté de la valeur ne doit jamais être dissociable, enfin doit être indissociable de son efficacité à lier effectivement les hommes et à créer une unité entre eux. Fonder, ce serait donc lier absolument la fondation et le fondement, instituer l'État en fonction de valeurs intrinsèquement louables, certes, mais aussi efficace dans la mise en place d'une coexistence effective des citoyens. Et ce que Machiavel a essayé de penser à mon sens, c'est justement la réunion de ces deux aspects. Ne jamais dissocier la préoccupation éthique de sa capacité à lier effectivement les citoyens entre eux. Donc, je terminerai là-dessus pour aujourd'hui. C'est le problème de cette réconciliation entre le fondement et la fondation qui, pour moi, fait le cœur de la philosophie de Machiavel. Et évidemment, cette réconciliation, elle va être recherchée, mais on s'en dit bien, quelque part impossible. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que cette impossibilité qui est finalement le cœur de... la politique, c'est un peu le lieu de l'insatisfaction. On ne trouve pas de parti qui corresponde vraiment à nos idéaux. On est d'accord sur tel point, mais pas vraiment sur d'autres. Et dès qu'on veut s'engager, finalement, la correspondance parfaite avec une institution en place est difficile à trouver. Donc c'est un peu le lieu de l'insatisfaction. Qu'est-ce qui est intéressant, parce que je parlais de la réappropriation du politique, repenser la réappropriation du politique par Machiavel, c'est que comment on réagit, nous, face à cette impossible réconciliation, à cette impossibilité. La réaction la plus spontanée, elle est celle du renoncement. Ne plus aller voter, ne plus s'engager. Après tout, si on se bat pour des valeurs sans arrêt et que quelque chose qu'on constate politiquement, c'est qu'on n'arrive jamais à les instituer, à quoi bon se battre? Et bien, moi je trouve que c'est là que Machiavel est génial. La fortune, c'est ce qu'il appelle la fortune, cette impossibilité. Justement parce que c'est impossible, dit Machiavel, c'est précisément pour ça que notre force d'engagement doit être la plus forte. C'est précisément parce que c'est un lieu d'échec continuel que ça appelle une force créative d'autant plus grande de notre part. Pourquoi Machiavel ce sera un des aspects fondamentaux de la vertu politique. Machiavel dira, dans la vertu, il faut s'adapter, il faut être intelligent, il faut anticiper. Mais quand on a un doute, qu'est-ce qu'il faut faire? Être impétueux. Toujours. Privilégier l'impétuosité, l'action. Si on est indécis au niveau des valeurs, si on ne sait pas trop quoi faire, il faudra toujours être en priorité impétueux plutôt que prudent si on est dans l'hésitation. Pourquoi? Parce que la politique appelle par définition l'engagement. Il y a un passage, certes très machiste, de Machiavel, où il compare la fortune à une femme. C'est l'époque. Et il dit, la fortune est très 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 indisciplinée, mais le meilleur moyen de la surmonter, c'est de la battre. Je ne dis rien, c'est Machiavel, c'est dans le texte. Il faut la battre, et pourquoi? Parce que la fortune, elle aime bien les jeunes hommes vigoureux, forts, qui prennent des décisions. Bref. Au-delà de l'image. Ça, ça veut dire une chose, ça veut dire que là où il y a contingence, c'est la fortune. Là où il y a impossibilité, apparente, en tout cas. Le point le plus important, ça va être notre vertu, c'est-à-dire notre force d'engagement. Et définir cette vertu, c'est l'enjeu de tout le prince. Et ça va agir, cette vertu, elle va se décliner à plusieurs points de vue qu'on va examiner ensemble dans le détail. Et ça, on démarrera, je pense, la semaine prochaine. Je pense que pour aujourd'hui, c'est suffisant. J'attends vos réactions.